Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, l'épître de Paul aux Galates, et nous allons lire au chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous, nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Juste avant, au verset 16, il était dit, donc marchez selon l'Esprit, cette exhortation, marchez selon l'Esprit. Lorsque vous marchez selon l'Esprit, eh bien, vous allez expérimenter aussi dans cette marche de l'esprit que le fruit de l'esprit va se développer. Oui, il va grandir. Des fois, nous essayons de donner à nos messages, du moins c'est notre habitude, un aspect très pratique. Parce que nous sommes humains. Lorsque vous écoutez un message, il est difficile pour vous d'être attentif si vous vous êtes en train de vous dire: ça ne me concerne en rien, ou je n'en ai pas besoin. D'accord? C'est évident. Donc, si vous discernez dans le message de Dieu quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous apporter quelque chose, votre oreille se dresse. D'accord? Vous êtes commencé à être attentif. C'est pour ça que je dis, souvent nous donnons à nos messages un aspect très pratique. Quelque chose que vous pouvez appliquer. Quelque chose dont vous pouvez vous servir. Nous parlons souvent de la foi, c'est pas vrai? Parce qu'on en a besoin. On n'a jamais trop de foi. Ça n'existe pas. Il n'existe personne sur Terre, aucun croyant qui dise j'ai trop de foi. Ou la foi, j'en ai assez maintenant, j'ai une quantité suffisante, faut que je passe à autre chose. Non, parce que votre foi sera toujours l'occasion d'accéder à toutes les autres bénédictions de Dieu. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas lui être agréable et rien recevoir de lui. Ainsi, dans les messages, eh bien, quand on dit par la foi, nous pouvons recevoir le salut, n'est pas sauvé sans la foi. Vous pouvez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir une guérison, une délivrance. Vous avez toujours besoin. C'est la clé qui ouvre. Donc, on peut donner un message en disant, voilà comment mettre la foi en pratique. Et on donne tous les principes bibliques. D'accord? Et c'est juste. C'est bon. Et des fois, on se rend compte que malgré tout ce que je sais, malgré tous les principes, il y a des choses tout de même qui ne marchent pas comme j'attendais. Que se passe-t-il? Alors, Galates 5, 6, puisque vous avez toujours votre Bible ouverte en Galates, eh bien, nous dit, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, des choses extérieures, des rites, ça n'a aucune valeur, mais seulement la foi qui est agissante dans l'amour. La foi est agissante dans l'amour. Donc, vous avez ici un ingrédient en vous disant, j'ai fait tout ce que je savais, j'ai mis tout en action, ce qu'on m'a enseigné d'après la Bible, et ça n'avait pas marché. Est-ce que ça ne serait pas l'ingrédient de l'amour qui manque? Vous voyez? Et puis, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, il faut que je rajoute cet ingrédient pour que ma foi puisse être agissante. D'accord? Vous suivez ce que je suis en train de vous expliquer? Que nous avons donc cet intérêt humain. Nous désirons avoir une réponse dans notre vie. Nous avons un besoin quelconque, qui n'en a pas? Nous savons que c'est par la foi que nous allons le recevoir, mais des fois, malgré tout ce que nous savons et tout ce que nous mettons en œuvre, eh bien, il semblerait qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Eh bien, la Bible nous dit ici que la foi est agissante par l'amour. Donc, si la foi de certains n'a pas produit d'effet, c'est pas qu'ils n'ont pas bien fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est simplement qu'il manquait quelque chose. La foi ne pouvait pas être agissante parce que l'amour y manquait. La foi est agissante par l'amour. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai présenté les choses d'une certaine façon en disant, nous avions tout sauf l'amour. Et c'est comme si, par exemple, je fais un plat cuisiné, une recette. Si je fais la pizza, c'est le plat universel, vous savez? C'est le plat qui s'est répandu dans le monde entier, qui est le plus mangé. Oui. Et donc, mais chaque pays l'a accommodé un peu à sa façon, hein. Les pizzas italiennes ne sont pas les mêmes que celles qu'on fait en France ou à New York ou que sais-je. C'est pas forcément la même chose. Et donc, chacun y rajoute ses ingrédients. Quelqu'un dira peut-être, mais une pizza sans olives, c'est pas une pizza. Un autre pourra dire, mais une pizza sans lard et oignons, eh bien, il n'aime pas. Etc. Donc, ça peut beaucoup changer. Mais je ne voudrais pas que vous ayez la fausse impression que vous avez la pizza qui serait alors la foi, la façon dont Dieu va répondre à votre besoin, à votre faim, et qu'il vous manquait l'amour, c'est-à-dire l'olive qu'on pose par-dessus. Mais plutôt de voir l'inverse. C'est que l'amour, c'est l'ingrédient de base. D'accord? C'est pas comme la cerise sur le gâteau. Pour faire joli, mettons un peu d'amour. Mais que c'est l'ingrédient de base. Tout le reste vient par-dessus. Mais donc, nous devons avoir une juste perspective. Quand nous disons, comme je l'ai dit, nous recherchons des réponses. Nous recherchons des réponses à nos prières, des résultats. Nous voulons mettre la foi en action. On se dit, tiens, quelque chose me manque. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, j'ai oublié de mettre l'amour. Comme si on avait oublié de mettre un peu de sel dans un plat. Mais le plat, l'essentiel du plat n'est pas le sel. Vous voyez, vous comprenez que je vais vous communiquer. C'est à la fois très simple et essentiel dans notre vie. Parce que si nous faisons tout ce que nous savons en tant que chrétiens et que nous négligeons de regarder à ce qui est de notre marche dans l'amour, nous pouvons faire extérieurement tout ce que des chrétiens apparemment font et avoir tout faux. Et c'est ce que nous dit ce passage dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que nous y lisons? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, même si peut-être mon exemple va déplaire à certains ou paraît un peu simpliste, mais revenons à notre pizza. Si nous considérons que l'amour, c'est l'essentiel, c'est la pâte, après, chacun peut mettre par-dessus ce qu'il veut. D'accord? Mais on ne peut pas faire sans l'essentiel, l'ingrédient essentiel. Et donc, on ne peut pas se vanter de toutes les autres choses si on n'a pas l'essentiel. Essayez de mettre de la sauce tomate dans le four et vous verrez ce qui va en sortir. Ça ne marche pas comme ça. Et de la même façon, ici, ce n'est pas à dire, il nous faut juste l'essentiel, l'amour. Est-ce que vous aimeriez être invité quelque part? On dit, venez manger une pizza chez moi, et alors vient sur la table juste une pâte. Il y a juste la pâte, il n'y a rien avec. Vous pouvez dire, c'est juste la farine et de l'eau, et c'est cuit, et puis voilà, régalez-vous. Et donc, c'est ainsi que je vois certains qui présentent la parole de Dieu en disant, certains mettent l'accent sur les langues, sur les prophéties, mais tout ça, ce n'est pas tellement important, l'essentiel, c'est l'amour. Et il ne vous présente que l'amour. Ce n'est pas vrai. L'amour est bien l'ingrédient essentiel, mais c'est pour poser tout le reste par-dessus. Et ainsi, l'ensemble devient savoureux. C'est bien pour un culte du dimanche matin. On s'approche tout doucement de midi. On va nous mettre en appétit pour ce que nous aurons plus tard. Mais d'abord, la nourriture spirituelle maintenant, à s'occuper de notre esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc, maintenant j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Nous présentons la parole de Dieu comme étant la réponse à nos besoins. Et c'est vrai, c'est la réponse à nos besoins et à nos questions. C'est la réponse à ce qu'il vous faut. Mais quand nous nous occupons de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous nous rendons compte que l'amour, eh bien, n'est pas d'abord une chose dont je m'empare et qui va me servir, mais avant tout, plus on va rentrer dans le domaine de l'amour, plus on va découvrir la vraie nature de l'amour. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galates ? On a lu « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres, les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Donc l'amour n'est pas l'ingrédient que je rajoute à la foi pour justement satisfaire mes passions et mes désirs. Parce que certains ont cru que la foi, c'était une occasion, par exemple, de devenir riche rapidement ou d'avoir tous ces désirs qui étaient comblés. Non, la foi, c'est cette confiance en Dieu qui nous fait marcher avec lui. Et il se trouve que plus on le marche avec lui, plus on le sert, plus on voit des bénédictions. Mais la bénédiction n'est pas avant tout une grande maison, une voiture plus grande et tout ce que le monde désire. La bénédiction, c'est avant tout toujours plus demeurer en lui. Parce qu'il y a une promesse qui est jointe. Venons maintenant dans Jean 15. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Encore une belle promesse, la parole de Dieu, pour recevoir. Et c'est bon, il nous faut enseigner comment recevoir de Dieu. Mais il y a tout le reste. Il y a la façon dont Jésus présente les choses. Et c'est tellement important de ne pas juste sortir un verset et de le répéter encore et encore et encore, mais comprendre ce que veut dire « demeurer en moi ». Si vous essayez d'utiliser la Bible pour satisfaire vos besoins, vos passions en dehors de Jésus, cela ne va pas marcher. Il y aura beaucoup de confusion et beaucoup de déception. La Bible est avant tout le livre qui nous fait connaître le Seigneur lui-même. Il se révèle dans la parole de Dieu. Et ainsi, vous aurez envie de le connaître, lui. Comme on dit des fois, recherchez la face de Dieu plutôt que sa main. Beaucoup de gens se sont approchés de Jésus pour recevoir nourriture. Il a multiplié le pain et les poissons pour des milliers d'hommes. Ils sont venus pour être délivrés. Ils sont venus pour être guéris. Mais Jésus a dit dans Jean 2, il dit, le Seigneur ne se fiait pas à eux, il savait ce qui était en eux. Combien sont restés fidèles, combien sont restés auprès de lui. Quand on voit qu'il y avait des milliers qui ont été nourris, qu'il y avait 70 qui étaient avec lui, qu'il avait donné pouvoir, puissance sur les esprits mauvais, qui ont guéri des malades, on voit qu'il y en avait 12 qu'il avait choisi. Quand on voit qu'il y en avait 3 qui sont restés avec lui à Gethsémané, qui se sont endormis, et que finalement il n'y en avait qu'un seul, c'était Jean qui était auprès de la croix, eh bien il y a des situations où nous savons ce qui est vraiment en l'homme. Mais quel était celui qui est resté près de lui à la croix? C'est celui dont nous avons la réputation qu'il insistait surtout sur sa relation intime avec le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Quand il se présentait lui-même, il disait « le disciple que Jésus aimait ». Il avait trouvé son identité, mais vous pouvez aussi être celui-là. Est-ce que vous pensez à vous comme ça? Est-ce que quand vous vous voyez spirituellement, vous dites « à quoi est-ce que je ressemble dans le royaume de Dieu ?» Quelqu'un dira peut-être un guerrier, quelqu'un qui sait combattre dans l'intercession. Un autre peut se voir comme évangéliste, un autre peut se voir dans un travail, service pour Dieu, mais de s'imaginer que nous sommes avant tout destinés à être le disciple que Jésus aimait. N'est-ce pas vrai? Nous sommes peut-être, pour le moment, l'enfant de Dieu que Jésus aime, mais nous pouvons aussi devenir le fils, atteindre notre position de maturité dans le corps que Jésus aime. Et nous pouvons finalement devenir le disciple que Jésus aime. Parce que le disciple, c'est encore autre chose. Le disciple, c'est celui qui suit son maître. Il suit ce qu'il a dit, il le suit là où il va, et qui est donc obéissant. Le disciple que Jésus aime. Eh bien, ce disciple que Jésus aime nous écrit des choses complètement différentes, pas différentes dans le sens opposé, mais tellement différent dans le sens complémentaire des autres évangiles. Matthieu, Marc, Luc nous raconte surtout ce que Jésus a accompli. Je dirais de l'extérieur. On voit un peu comment il a agi, comment il a parlé, comment il a exercé son ministère, comment il est mort sur la croix. Tout ça, c'est la parole de Dieu, c'est formidable. Mais dans l'évangile de Jean, nous avons des choses, je dirais, entre guillemets, plus intimes. Nous avons cette relation que Jésus avait, un cœur à cœur avec ceux qui le suivaient. En particulier, on a des détails. On a le détail que le disciple que Jésus aimait, eh bien, il était couché sur le sein de Jésus quand il prenait la Sainte Seine. Il y avait une intimité et il y avait cette proximité que seuls peuvent expérimenter des amis, de vrais amis. On dit des fois amis à la légère, mais le terme ami est très fort. C'est ici que, dans Jean 15, Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Pensez à Abraham qui était appelé l'ami de Dieu. Dans cet épisode de l'intercession d'Abraham, dans Genèse 18, Dieu dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Un ami, c'est quelqu'un qui veut partager tout ce qu'il y a dans son cœur avec son ami. C'est ainsi que amitié, c'est une âme partagée. Ils ont la même âme. C'est ce que l'apôtre Paul priait dans Philippiens 2 et il disait « S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Nous ne parlons pas ici de contrôle sur la pensée d'un homme, un gourou ou quelque part comme dans une secte qui voudrait imposer sa façon de voir à tout le monde. Nous parlons d'un rapprochement entre une personne et son ami, où chacun partage tout ce qu'il y a sur son cœur. Et ensuite, eh bien, ce qui me concerne, concerne aussi mon ami. Et ce qui concerne mon ami, me concerne aussi. C'est ainsi que plus vous êtes unis à Dieu, plus ce qui vous intéresse, c'est les intérêts de Dieu. N'est-ce pas vrai? Quand vous considérez que l'intérêt de Dieu, quel est-il? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien, l'amour de Dieu est porté vers le monde. L'intérêt de Dieu est pour le monde. Il aime le monde. Pas le système du monde, mais il aime le monde. Alors vous sortez de votre égoïsme, de votre indifférence, et vous êtes porté aussi vers les choses où l'amour de Dieu se porte. Commencez à vous intéresser au monde. Vous aimez être au milieu du monde. Vous n'aimez pas ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, forcément. Mais vous aimez être à cet endroit parce que vous savez que Dieu veut toucher cet endroit. Oui? Donc Dieu n'avait pas caché à son ami Abraham ce qu'il comptait faire. Et de la même façon, Jésus veut partager avec nous ce qu'il désire faire. Mais il a dit la chose suivante, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous voulons des fois que Dieu soit notre ami. Et si nous voulons être l'ami de Dieu, nous devons aussi faire ce qu'il attend de nous. Sinon, ça ne marche pas. Une bonne relation, c'est toujours dans les deux sens. Les couples qui ne marchent pas, c'est soit qu'il y a deux égoïstes ou au moins un. Et si deux personnes se marient parce qu'ils voient dans l'autre toutes les choses qu'ils pourront en retirer pour leur intérêt, leur satisfaction personnelle, eh bien, c'est un couple qui vont s'entre-déchirer. Chacun va toujours chercher à puiser chez l'autre. Et il y aura toujours ce désir de recevoir et jamais le désir de donner. Donc, c'est une relation en sens unique et ça ne marche pas. Et s'il y en a un des deux qui est dans cette situation, eh bien, ça ne marche pas non plus. Parce que l'autre aura beau essayer, toujours de donner de l'amour. S'il n'y a pas de réponse, au bout d'un moment, ça ne marche pas non plus. Il faut qu'il y ait un retour. C'est ainsi que Dieu a tant aimé le monde, il a beau vous aimer autant qu'il peut, si vous ne répondez pas à l'amour de Dieu, à quoi cela sert-il? Cela sert à ce que tout le monde puisse donner témoignage que Dieu n'a jamais cessé d'aimer. Mais vous n'y avez pas répondu et cela ne vous sert à rien, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 13. Donc il y a besoin que vous soyez capable, dites je suis capable de répondre à l'amour de Dieu. Parce que Romains 5, 5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous avez donc, par l'action de l'Esprit de Dieu, été recréé. Votre esprit a été recréé et il y a déposé ce qu'il y avait de plus précieux. Le Saint-Esprit est venu habiter. Et avec le Saint-Esprit, eh bien, il y a aussi le fruit de l'Esprit qui est venu. Et le fruit de l'Esprit, nous avons lu ce que c'est. Toute la composante du fruit de l'Esprit, dont l'amour, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, l'amour y est. Il est déposé en vous. Il est déposé comme une source. Peut-être c'est une petite source. Peut-être ce n'est pas encore un fleuve d'eau vive. Mais la source, elle peut grandir. En attendant, vous avez maintenant cette capacité reçue de Dieu de manifester l'amour. Pourquoi cet amour ne jaillit-il pas plus? C'est la plupart du temps parce que nous ne demeurons pas avec Jésus. Nous avons la même résidence, la même adresse. On habite ensemble. C'est comme si on était marié avec Jésus. On habite ensemble, mais vous savez aussi, dans la vie concrète, quotidienne, qu'on a beau s'aimer, être marié, habiter sous le même toit, mais si chacun doit tout le temps courir à des activités diverses, si par des fois, même sans notre volonté, il se peut, à cause des activités professionnelles, l'un est absent pendant que l'autre est là, et puis à peine il y en a un qui revient, l'autre doit repartir. Donc, on habite ensemble, mais on peut dire d'une certaine façon, on ne demeure pas ensemble. D'accord? Et nous comprenons ce que ça veut dire. Eh bien, nous avons besoin de comprendre que spirituellement, nous pouvons faire la même chose. Comment dire, j'aime Jésus. Je lui ai donné ma vie. Il habite en moi par son Saint-Esprit. Il a répandu de l'amour dans mon cœur. Mais je ne demeure pas avec lui. Comprenez ce que ça veut dire? Je ne demeure pas avec lui. Et à chacun de vous de répondre honnêtement devant Dieu. Seigneur, est-ce que tous les jours, je demeure avec toi? Est-ce que je demeure avec toi? Demeurer veut dire rester. Pas juste, salut, je t'aime bien, mais j'ai pas le temps maintenant. Demeurer, ça veut dire prendre du temps. Il y a un temps pour l'adoration personnelle. L'adoration, c'est plus que la louange. Nous pouvons rendre grâce à Dieu au repas, et dire merci Seigneur pour le repas et bénir la nourriture, n'est pas de l'adoration. L'adoration, ça veut dire que je ne remercie plus pour une chose, je ne loue pas Dieu simplement pour ce qu'il est ou ce qu'il me donne, mais je ne pense plus qu'à lui. Mon Seigneur et mon Dieu, et les gens se jetaient aux pieds de Jésus. C'était l'adoration. Ils étaient subjugués par sa personne et par sa présence. Donc, il nous faut faire cela. Parce que, et ce n'est pas notre premier objectif maintenant, mais vous voyez que souvent, peut-être dans votre vie, si vous n'avez pas obtenu ce que vous avez voulu, eh bien Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Peut-être certains sont devenus des experts dans la connaissance biblique et dans les listes des promesses. Et on collectionne les promesses et c'est très bien de faire ça. On sait les promesses pour la guérison, voilà tous les versets. Les promesses pour l'abondance, les promesses pour la délivrance, les promesses pour la famille, pour les enfants, etc. Et les promesses, et on accomplit, et c'est bien, j'encourage les gens à faire ça. On accomplit la deuxième partie, que mes paroles demeurent en vous. Mais il manque la première, si vous demeurez en moi. Apprenons à demeurer. Pourquoi? Parce que demeurer en lui est la source de notre vie spirituelle. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le sarment doit être attaché au cep. C'est là que vient la source. La source de la vie, la source de la force. Notre force spirituelle est en lui. Êtes-vous attaché au cep? Répondez, répondez devant Dieu, en vous-même. Est-ce que je suis attaché au cep? Vous l'êtes au moins un petit peu, sinon vous n'auriez même pas la vie de Dieu en vous. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Êtes-vous vraiment attaché au cep? Il est dit, le sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il l'émonde, ça veut dire il enlève les choses inutiles. On doit choisir. On parle souvent du premier amour. Et souvent on a parlé du premier amour, le reproche du Seigneur à son Église. Elle disait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On a parlé de l'amour, de ce premier amour, comme étant l'amour des fiancés, avec tout l'enthousiasme des débuts et tout le reste. Ce n'est pas tellement le fait que ce soit le premier amour dans le sens de premier dans le temps. C'est surtout que dans ces temps-là, il y a quelque chose qui est plus important que tout le reste. C'est d'être avec l'être aimé. C'est le premier. Et cette chose peut demeurer. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'il soit premier en toute chose. Qu'il soit ce premier amour. Ainsi, quand il dit il va nous émonder pour qu'on porte plus de fruits, quand nous avons expérimenté le premier amour, je pense avec quelqu'un, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant cette période. On les laissait de côté. C'est ça, émonder. Parce que c'est plus important. Pensez toujours de votre journée, de quoi est-elle remplie? Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, la réponse, elle est simple. Ce que Dieu demande, dans le sens du mot grec « demander », ça peut même être plus fort, ça peut être « exiger ». Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Il exige, je vais le dire plus fort maintenant, de chacun d'entre vous que vous soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'y a pas juste quelques spécialistes, ça c'est leur dada, eux ils aiment ça, l'adoration. Non, Dieu exige que vous soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Dites-le avec moi. Dieu exige que je sois un adorateur, adoratrice, en esprit et en vérité. Donc, il veut que nous portions du fruit. Demeurez en moi. Il est dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Le sarment coupé ne porte pas de fruit. C'est clair. Hein? Surtout le sarment de la vigne est pris comme étant quelque chose qui dessèche particulièrement vite. C'est une bonne illustration. On peut faire confiance à Jésus que quand il utilisait ces illustrations, c'était bien choisi. Rien de tel pour certains pourra démarrer du feu que des sarments de vigne bien séchés. Mais le fruit, tout de même, il est sur le sarment. Il n'est pas directement sur le cep. Ainsi, il en va de nous. L'amour de Dieu manifesté dans le monde actuel, le monde le verra sur les sarments et pas sur le cep. Quand ils veulent voir l'amour de Dieu, où le verront-ils? On peut leur montrer la Bible, tout ce que Dieu a fait. Mais ce qu'ils veulent voir aussi, c'est du fruit chez nous. Et quand il est dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour et tout le reste, et nous parlons surtout de l'amour ce matin, eh bien, il nous est dit que ce fruit de l'amour, le monde veut le voir chez nous. Et c'est normal comme ça. Nous sommes attachés au cep. Le fruit de l'esprit, certaines fois, c'est écrit le fruit de l'esprit avec un grand E, faisant référence au Saint-Esprit. Et c'est vrai que le fruit de l'esprit provient du Saint-Esprit. Mais on peut très bien écrire aussi le fruit de l'esprit avec un petit e, c'est-à-dire ce que nous produisons, puisque nous sommes les sarments. Et quand vous prenez un arbre, le fruit ne pousse pas sur le tronc, mais bien au bout des branches. Et de la même façon, eh bien, notre fruit de l'esprit va pousser sur nous. Le fruit est au singulier. Il y a un seul fruit. Donc, nous ne parlons pas de 9 fruits qui seraient différents selon l'énumération de Galates 9, 5, 22, mais nous disons un seul fruit. Un seul fruit, mais composé d'une multitude de choses. De la même façon que vous n'avez pas un arbre dans le naturel qui porte des fruits différents. Ça n'existe pas dans la nature. tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas un arbre où vous ayez à la fois des pommes, des cerises, des poires, et que sais-je encore. Comment le fruit il est? Il est juteux, acidulé, sucré, tout ce que vous voulez. Et ils se ressemblent peut-être entre eux, mais ils sont tout de même différents. Ainsi, notre fruit, le fruit de l'esprit, c'est tout ce que l'esprit produit en nous. Et tout ce que nous laissons l'esprit produire en nous. Et ce fruit, il n'est pas différent de l'un à l'autre. Nous sommes tous sur le même cep, des sarments de la même nature que Dieu, et nous portons tous ce même fruit de l'esprit. D'accord? Et ce fruit, quand quelqu'un veut l'en manger et le cueillir, il n'est pas pour nous, il n'est pour quelqu'un d'autre, alors il l'en prend et il pourra le comparer. Ainsi, il pourra dire, eh bien, il y en a un qui est plus juteux, l'autre est plus sucré. Ça, c'est tous les composants. Peut-être nous avons développé dans notre vie certaines choses plus que d'autres. Certains manifestent plus l'amour, d'autres plus la joie, d'autres plus la paix, d'autres plus la patience. Mais on ne peut pas dire, moi, je suis le champion de la patience et je me spécialise. Non, nous avons le fruit de l'esprit qui est le résultat simplement d'être en lui, de demeurer en lui. Si vous prenez du temps pour demeurer en lui, la vie de Dieu va venir en vous. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose à ce sujet. Qu'est-ce que nous avons vu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Nous savons que nous avons des capacités d'utiliser nos paroles et la parole de Dieu pour nous changer, nous transformer. Qu'est-ce qui nous transforme? La parole de Dieu et nos paroles, les choses que nous croyons en nous. Ainsi, pourquoi ne pas l'utiliser de la même façon que nous utilisons le reste en nous appliquant nous-mêmes la parole de Dieu? Vous voyez où je veux en venir? Au lieu de dire « Je suis sec, je ne sais pas manifester l'amour, je n'ai pas l'amour, Seigneur donne-moi plus d'amour », pourquoi ne pas méditer Romains 5, 5 justement, qui dit que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Chaque fois que la colère veut s'élever, chaque fois que l'irritation veut s'emparer de nous, disons, l'amour de Dieu est répandu en moi par le Saint-Esprit. Et il y aura une confrontation, il y aura une bataille, une guerre spirituelle en vous. Et vous allez choisir par vos mots, vous savez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, vous allez choisir par vos mots qu'est-ce qui va l'emporter dans votre vie. Est-ce que je marche selon la chair? Est-ce que je me laisse simplement aller? Ça nous est arrivé à tous déjà. Fatigue, n'est pas sur ses gardes, on a peut-être négligé la communion avec Dieu, et à cause des circonstances, eh bien on réagit comme monsieur tout le monde. Des fois certains ont ruiné leur témoignage comme ça, par une colère devant leurs collègues ou une irritation. Ils auraient pensé que pendant des années on a témoigné de l'amour de Dieu, de la douceur de Jésus et de sa paix, et puis on perd le contrôle et puis beaucoup de gens peuvent être choqués par ça. Mais au lieu de ça, donc, réagissons en utilisant les choses que nous savons dans l'amour de Dieu répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit et développant en nous cette perspective. Utilisons 1 Corinthiens 13, non pas simplement pour dire voilà ce que c'est que l'amour et analyser l'amour, mais une façon de pouvoir mettre encore la parole de Dieu en action dans notre vie. Verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Une autre version dit « l'amour n'échoue jamais ». Ça veut dire que si vous marchez selon cette direction de la parole de Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de possibilité, quand il est dit « l'amour ne périt jamais », c'est quoi? C'est la mort. Il n'y a pas de possibilité pour la mort d'agir en vous. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort, de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que l'amour de Dieu, par la puissance de sa parole, nous permet d'aller contre cette œuvre de la mort et du péché. Maintenant, nous savons que Dieu est amour. Combien d'entre vous, vous savez que Dieu est amour? La Bible dit, Alors, on peut remplacer l'amour par Dieu. Et vous verrez que ça colle parfaitement. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante point. Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche point son intérêt. Vous avez remarqué déjà? Dieu ne s'irrite point. Dieu ne soupçonne point le mal. Dieu ne se réjouit point de l'injustice, mais Dieu se réjouit de la vérité. Dieu excuse tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Dieu supporte tout. Vous le croyez, ça? C'est la parole de Dieu. Dieu est amour, parce que si on disait que là, ça ne colle pas avec la nature de Dieu. Ça voudrait dire que l'amour est une chose plus élevée que Dieu lui-même. Comprenez? Parce que peut-être vous avez tiqué, comme on dit, sur l'une ou l'autre chose, disant, comment Dieu ne s'irrite point? Mais si, il y a des passages dans la Bible où on voit la colère de Dieu et tout ça. Non, il est dit, quand il est dit certaines choses ici, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail maintenant, mais nous comprenons que l'irritation dont il est question ici, l'irritation, c'est se laisser à la colère qui est une manifestation démoniaque. Il n'est pas du tout question de la colère de Dieu dans le sens de la sainte colère, qui serait trop long à détailler maintenant. Mais donc, tous ces attributs, on peut les attribuer à Dieu. Toutes ces choses concernent Dieu. Mais si nous sommes le temple du Saint-Esprit, si Dieu habite en nous, toutes ces choses sont en nous. Le fruit de l'Esprit, tout ce qu'il est, eh bien, veut se manifester en nous. Ainsi, maintenant, l'exercice devient un peu plus difficile. Il faut nous mettre à la place de l'amour. Dieu est amour, il habite en moi. Eh bien, j'ai cette capacité. Je suis patient. Dites-le avec moi. Je suis patient. Peu importe la bataille qu'il y a dans votre tête maintenant en disant, mais toutes les fois où je me suis impatienté, ce n'est pas la question maintenant. Nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu. Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je ne suis pas envieux. Je ne me vante pas. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne m'irrite pas. Je ne soupçonne pas le mal. Je ne me réjouis pas de l'injustice. Mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout. Je crois tout. J'espère tout. Et je supporte tout. Et comme je l'ai dit, pendant que nous disons ça, peut-être dans votre tête, des fois, il y a une bataille en disant, mais combien de fois tu as perdu ton sang-froid? Combien de fois tu n'as pas fait ceci, cela? Mais nous sommes en train, justement, d'utiliser notre bouche, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, pour nous appliquer la parole de Dieu et dire que ce fruit de l'esprit, cette présence de Dieu en nous, va faire qu'il y aura une transformation. Que de peu de patience que nous avons manifestée jusqu'à présent, plus je vais demeurer en lui. Plus je vais m'identifier à lui et à la parole qui dit que l'amour est patient. Dieu est patient. Dieu habite en moi. Et donc, la patience est en moi aussi. Elle peut se manifester. Elle peut se développer. Simplement, il y aura une bataille. Quand je serai tenté de m'impatienter, je devrais à nouveau faire cet exercice en disant, non, l'amour de Dieu demeure en moi. Je suis patient. Je n'ai pas besoin maintenant de m'irriter pour cette chose. Quand je suis, donc c'est une tentation de tous les jours dans tous ces domaines. Mais voilà une solution. C'est la solution que la parole de Dieu nous donne. Si on dit simplement, Dieu est patient et moi je suis impatient. Le jour où Dieu le choisira, il va déposer la patience en moi. Et puis tout à coup, je serai transformé et je serai maintenant patient. C'est une façon d'imaginer les choses qui ressemble à de la magie. Un coup de baguette magique. Mais Dieu ne nous transforme pas comme ça. C'est ainsi qu'il a montré dans la création comment les choses grandissaient, se développaient. Et nous ne sommes pas différents. Pourquoi est-ce qu'il a fait que l'homme mette de 20 ans à devenir un adulte? Pour la seule raison que nous sommes des êtres spirituels qui avons besoin de développer aussi notre esprit. Et ainsi, le développement de notre corps montre qu'il y a du temps il y a de la maturité, de la croissance qui se développe, et de la même façon, il y a des choses qui se passent en nous. N'oubliez pas que Dieu est le Dieu des miracles. Il a de la verge d'Aaron, le bâton qui était sec, en une nuit, il a fait grandir, pousser des branches, des feuilles, des fleurs et un fruit. Donc il est capable. Je ne dis pas que ça va prendre 20 ans pour vous. Ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de notre foi. Est-ce que nous croyons cette parole quand il est dit « Jésus grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes ?» Nous pouvons nous appliquer ces choses en disant « Non, je veux grandir plus vite. » Qu'est-ce qui nous empêche d'être aussi spirituel que nous le voulons ? Alors, il nous faut simplement nous appliquer à ces choses, fixer nos regards sur la parole, et nous aurons aussi le bienfait de tout ce que la Bible nous promet ici. Voyons encore un aspect dans 1 Jean. Donc nous sommes encore avec l'apôtre Jean, qui vraiment, je pense, a eu une révélation. Pour ça, des fois, on leur attribue des titres comme Jean, l'apôtre de l'amour. On n'est pas vraiment apôtre de l'amour, ça n'existe pas ça. Un apôtre, un ministère apostolique, c'est autre chose. Mais on veut dire que son ministère, par excellence, c'était de communiquer cette révélation de l'amour de Dieu telle qu'il avait reçue. Mais donc dans 1 Jean 4, il y a des choses dont il nous parle, en particulier, ça nous parle de combats spirituels, des esprits séducteurs, et au verset 4, eh bien il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas Dieu, de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, voilà en quoi se manifeste particulièrement l'esprit de la vérité. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous avons besoin de connaître Dieu, pas seulement savoir des choses sur lui, mais connaître l'amour de Dieu. Est-ce que vous expérimentez régulièrement l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez la révélation de l'amour de Dieu pour vous? Je pense qu'il devrait y avoir plus de sentiments, plus d'émotions dans votre vie spirituelle. Je ne parle pas pour être plus émotif maintenant. Je parle que l'émotion, le sentiment sont des manifestations qui se passent au niveau de notre âme comme résultat d'avoir expérimenté l'amour de Dieu au niveau de notre esprit. Je demande que vous puissiez, dans votre culte personnel, avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Il va vous transformer, mais il viendra quand vous allez vous approcher de sa parole, quand vous allez utiliser la parole de Dieu comme je vous ai demandé de le faire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde entier, afin que nous vivions par lui. Nous n'avons jamais le droit, ne permettons pas au diable de nous séduire de cette façon. Nous n'avons jamais le droit de douter de l'amour de Dieu pour nous. Jamais. Si nous doutons, peut-être parce que nous plaçons la base de notre amour et de l'amour de Dieu sur nos sentiments, alors regardons ce passage qui nous dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voyez ? Voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que démarrez à la parole, démarrez dans l'esprit, recevez cette révélation, mais ensuite laissez cet amour de Dieu se manifester partout, dans votre âme, dans tous les recoins de votre âme, jusqu'à votre corps manifester l'amour. Serrer quelqu'un dans ses bras. Il n'y a pas assez d'amour manifesté. Il y a des endroits, je sais, dans certaines familles, où les hommes ne s'embrassent pas. Il est important pour un père et un fils de conserver pendant toute leur vie des relations d'affection. Il est important. C'est important pour le développement des jeunes garçons, qu'ils puissent manifester l'amour. Je ne parle pas de qu'ils ne soient pas des hommes, entre guillemets, pense par rapport à la virilité, ce n'est pas la question. Ils n'ont pas besoin de devenir mous ou de devenir efféminés, mais ils ont besoin de recevoir l'amour de Dieu. Vous savez que certaines personnes qui sont tombées dans les pièges de la perversité et de l'homosexualité, ce n'est pas parce qu'ils ont été trop aimés, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'amour d'un père, souvent. Ils n'ont pas reçu ce qu'était vraiment l'amour. Alors le diable s'est servi de ce besoin, de ce vide, les a pervertis. Mais ce n'est pas parce qu'ils en ont trop reçu, ça n'existe pas. Et donc, voyons que cette révélation de l'amour de Dieu, dans l'esprit, dans la parole, doit s'étendre. Dans certaines cultures, c'est plus ou moins, on s'embrasse, on se donne un baiser, ou on se serre dans les bras, c'est plus ou moins. Chacun doit savoir aussi comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène culturel qu'il faut nous arrêter à ça. Notre culture ne veut pas être ni française, ni même israélienne, ou ni même autre. Elle veut être avant tout biblique. N'est-ce pas? Nous voulons avoir une culture biblique parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Donc, quand moi je vois certaines choses dans la Bible, je ne dis pas « Ah ben, c'était la façon dont ils faisaient en Israël ». Je dis non. Quand certaines choses, nous les voyons même exprimées dans la parole, il nous est dit que dans les proverbes, je crois que c'est dans le livre de Job, c'est comme deux frères qui s'embrassent, il n'y aurait même pas de l'air qui pourrait passer. Il y a aussi une amitié, une manifestation de l'amour dans le couple, avec les enfants, entre parents et enfants, entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que nous voyons encore? Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous sommes encore en train de grandir dans l'amour, n'est-ce pas vrai? Nous ne sommes pas arrivés à la maturité ni à la perfection. On grandit. C'est-à-dire que nous ne basons pas notre relation sur l'amour que nous éprouvons pour Dieu, mais basez votre relation sur l'amour que lui a pour vous. C'est ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, qu'est-ce qui est notre base? L'amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé. Ainsi, cet amour ne changera jamais. Et votre relation avec Dieu non plus. Voyez? Vous pouvez vous sentir condamné. C'est dans la même épître. Il dit, notre cœur nous condamne des fois. Mais s'il nous condamne, nous avons de l'assurance devant Dieu. Notre cœur peut nous condamner, mais l'amour de Dieu reste le même. Développons cet amour. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Chaque fois que nous avons du mal à aimer quelqu'un, et il faut être honnête, il faut dire, j'ai du mal à aimer cette personne, mais je sais que l'amour de Dieu demeure en moi. Je sais que même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas chez elle, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas aimables en moi non plus. Et Dieu m'a aimé. Et ce qui est plus important, c'est de connaître quelqu'un dans l'esprit et non seulement selon la chair. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. À nouveau, cette présence de l'Esprit de Dieu donne la mesure. Voyez, c'est tout. C'est tellement important. Des fois, on a l'impression que c'est devenu une banalité. Dieu habite en nous. Oh, Dieu habite en nous. Non, ce n'est pas une banalité. Il y a des millions de personnes qui aimeraient avoir cette présence de Dieu. Et ils la cherchent dans toutes sortes d'égarements, dans toutes sortes de fausses doctrines, de séductions. Ils voudraient avoir la puissance. Et nous avons l'amour de Dieu. Nous avons sa puissance en nous. Parce que nous avons lui-même. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Encore une bonne façon de demeurer en Dieu. Imaginez, vous vous promenez ensemble, en couple, vous rencontrez quelqu'un qui vous connaissait autrefois mais qui ne connaît pas votre épouse. Et puis vous dites, il dit, qui est cette personne? Elle dit, oh, celle-là, je ne la connais pas. Immédiatement, votre communion serait rompue. N'est-ce pas vrai? Une femme s'attendrait à être honorée. Elle dit, voilà, l'épouse avec qui je partage déjà je ne sais combien d'années de vie. Vous pouvez dire aussi que c'est Dieu qui vous l'a donnée, ou que sais-je. Mais l'honorer, pas faire comme si elle n'existait pas. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas. Bon, c'est des questions de politesse, de savoir-vivre. Quand on est en présence d'étrangers, eh bien, on se présente les uns aux autres. Et donc ici, cette façon de déclarer publiquement, c'est comme si, littéralement, vous vous promenez avec Jésus, partout où vous allez. Et si on vous pose des questions sur votre foi, si on vous demande des choses, vous avez l'occasion de témoigner, c'est pas seulement j'ai peur de témoigner à cause des réactions des gens, c'est est-ce que vous êtes plus conscient de la réaction peut-être que le diable vous fait imaginer que ces gens auront, ou de la présence de Jésus à vos côtés, vous voyez? Et en disant, voilà, moi, je tiens pour Jésus, je crois en lui, je suis un croyant. Eh bien, il nous est dit, Dieu demeure en lui, parce qu'il l'a déclaré publiquement. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Est-ce que vous avez cru à l'amour de Dieu? Vous voyez, des fois on dit croire en Dieu, mais nous voyons quelque chose de plus, croire à l'amour de Dieu. Pas seulement croire, bon Dieu nous a aimés, donc il a envoyé son Fils, je crois qu'il a porté mes péchés, je crois à toute cette histoire, mais croire à l'amour de Dieu. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Encore une fois, façon de demeurer dans l'amour, c'est vous prenez 1 Corinthiens 13 tous les jours et vous faites votre bilan. Dites où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il y a des, comme choses qui doivent progresser? Et ainsi vous utilisez la parole de Dieu. Ce n'est pas mentir de dire je suis patient par une déclaration de foi en croyant que l'amour de Dieu en vous va développer cette patience. C'est simplement la façon biblique d'amener la patience en vous. La façon biblique, c'est comme ça. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Dieu appelle à l'existence. Donc quand vous dites « je suis patient », ça veut dire vous appelez la patience dans votre vie. Comme quelqu'un qui disait « Seigneur, rends-moi patient et fais-le tout de suite ». C'est une façon imagée simplement de dire que quand nous attendons toujours les choses d'ailleurs, qu'elles viennent en nous, ça ne marche pas comme ça. Dieu procède de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et maintenant, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pour ça que je disais, nous sommes l'image de l'amour de Dieu dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Jour du jugement, ça veut dire un jour où on est éprouvé. Les choses sont éprouvées, sont sous-pesées. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Êtes-vous rempli de crainte? Vous n'avez plus besoin de craindre. Jésus a fait ce qu'il fallait pour que vous soyez délivrés. Il a manifesté l'amour. Rappelez-vous ce qu'il a dit à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a réellement manifesté 1 Corinthiens 13. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'aimerais rajouter maintenant encore une dimension par rapport à l'amour. Dire, l'amour n'est pas seulement un sentiment, bien que je vous ai exhorté à libérer vos sentiments, manifester plus. Mais l'amour, c'est avant tout une volonté, c'est avant tout une décision. Une décision de rechercher le bien de l'autre. Examinez dans 1 Corinthiens 13, quand il est dit « l'amour ne cherche pas son propre intérêt ». Mais quand nous marchons dans l'amour les uns avec les autres, surtout dans l'Église, chacun va chercher comment est-ce que je peux mieux aider les autres. Je peux aider les autres, pas forcément toujours de la façon dont eux ont pensé. Hein? Peut-être il y a une personne qui peut rentrer dans l'Église et dire « s'il m'aimait vraiment, il ferait ceci ou cela pour moi ». Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours aider quelqu'un que de répondre exactement dans son sens. Ou ce n'est pas toujours la meilleure façon, disons. Peut-être ça va l'aider. Mais ce n'est pas toujours la meilleure façon. Pensez l'illustration dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Quand Pierre et Jean sont allés au temple, il y avait ce mendiant, il était là, Et ils s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Quand Pierre a dit, regarde-nous, il s'est dit, ils vont me donner de l'argent. Parce que sinon, ils ne seraient pas intéressés, ils auraient continué. Mais lui ont donné autre chose. Ils ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ce qu'il a reçu lui a permis d'avoir de nouveau toute sa capacité et de lui-même gérer sa vie et de ne plus dépendre, de sortir de l'esclavage. Ainsi, manifester dans l'amour n'est pas toujours répondre exactement comme l'autre imagine. Et il y a des gens qui peut-être peuvent d'abord être choqués en me disant « Mais on ne manifeste pas d'amour, on ne m'aide pas, personne ne s'intéresse à moi. » Tous les mensonges que le diable leur donne et qu'ils laissent demeurer dans leur tête. Mais l'amour, eh bien c'est d'abord quoi ? C'est aussi proclamer la vérité. On a vu quel est l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. L'amour, ce n'est pas dire « Tu sais, on t'aime et prends courage et continue comme tu as fait. » Non, l'amour, c'est aussi de dire « Tu as besoin d'un changement. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision maintenant. » Et c'est ce que je vous dis ce matin. Nous avons besoin de prendre une décision. Prendre une décision de dire « Je dois absolument expérimenter tous les jours le premier amour avec Dieu. » Il doit avoir la première place dans ma vie. Certainement, vous l'avez entendu des dizaines de fois, des centaines de fois, certains encore plus. Mais, je suis désolé de le dire, ce n'est pas la réalité. La plupart d'entre nous, ce n'est pas la réalité. Nous, c'est vrai, nous sommes, comme je l'ai donné l'illustration, nous sommes mariés avec Jésus, on habite dans la même maison, on se côtoie de temps en temps, mais on ne demeure pas ensemble. C'est ça le problème. Donc, besoin d'apprendre à demeurer avec lui, à développer ce premier amour. Premier amour va passer aussi par l'amour de sa parole. Et on va déclarer les choses qu'il dit. On va dire les mêmes choses parce qu'on a compris, c'est elles qui vont nous changer. C'est elles qui vont nous transformer. En conclusion, on va prier Éphésiens. Éphésiens 3, 14. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que nous puissions comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les frères et sœurs, tous ensemble, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.